interview de Inti Illimani qui disait « La droite a passé toutes ces années à profiter de la rente de la dictature et la gauche a passé le même temps à lécher ses blessures. » Et en dehors de lécher ses blessures, à quoi cela a pu servir ? À quoi ça a pu servir dans le reste de l'Amérique latine ? Et je pense que si certains coups d'État n'ont pas réussi dans des pays d'Amérique latine, c'est peut-être parce qu'ils étaient avertis de comment ça s'était passé au Chili et de la résistance qu'il fallait organiser, de la manière dont il fallait s'organiser. D'autre part, et nous aurons une intervention cet après-midi et un débat à ce sujet, quel est l'impact sur la société d'aujourd'hui de ce moment historique avec aujourd'hui un président de droite, mais demain, est-ce que le mouvement étudiant a pris des leçons, par exemple, de cette expérience ? Est-ce que les jeunes qui mènent ce mouvement étudiant ont une ouverture plus large que le mouvement étudiant, mais des changements fondamentaux de société ? Parce que si on demande une éducation publique gratuite, ça veut dire modifier complètement les équilibres sociaux et économiques de la société. Et donc en quoi ces jeunes ont pris des leçons de cette période ? Et c'est ce qu'a voulu évidemment montrer la fiche que vous avez sans doute reçue par Internet et qui nous montre une jeune fille manifestante pour éducation marquée sur son visage et à droite, en noir et blanc, le passé duquel peut-être ils vont tirer des leçons, duquel peut-être ils vont s'inspirer. Alors, ce sera ça le sens de notre journée et nous avons la chance d'avoir des invités prestigieux avec nous. À ma place devrait se trouver Jean-Michel De Waal. Je ne suis pas Jean-Michel De Waal, doyen de la faculté. En fait, Jean-Michel De Waal qui nous soutient absolument dans toutes les activités du Centre d'Histoire et de Sociologie des Gauches, qui a fait imprimer les affiches, etc., a été hospitalisé, il était en mission pour l'université à Bucarest, il a été hospitalisé et il doit revenir aujourd'hui ou bien il est revenu hier soir avec un transport de groupe assistance et donc nous l'excusons tout à fait de ne pas être des nôtres, mais il a fait téléphoner hier pour dire qu'il souhaitait bon succès à notre réunion d'aujourd'hui. De même, il y a une personne qui sera remplacée par une autre, c'est Cécile Rollin, qui a été une des clés de l'accueil des Chiliens ici en Belgique pour Amnesty International. Et Cécile Rollin est toujours en pleine forme malgré ses 80 ans, mais elle vient d'être opérée de la hanche. Et elle m'avait dit, mais c'est une semaine après mon opération, je pourrais certainement arriver jusque-là. C'est impossible, bien entendu. Et donc, elle sera remplacée par une autre personne de Amnesty International lors de la séance de cet après-midi. Alors, qui est-ce qui organise cette journée ? Bien, j'ai cité le Centre d'Histoire et de Sociologie des Gauches. Mais nous ne sommes pas seuls organisateurs, loin de là, puisqu'il y a la Maison de l'Amérique latine, il y a l'IEX, mais il y a aussi le CIDAL, et d'autre part, il y a Radio Campus qui assure l'enregistrement de la séance et on leur demandera tout à l'heure s'il y a moyen pour ceux qui ne sont pas là de retrouver un certain nombre d'exposés. Donc voilà le projet de notre journée. Le programme est assez chargé Et nous allons commencer par demander à Sergio Gress de l'Université du Chili, qui est historien, et qui va venir nous parler de la gauche chilienne et les élections. Je l'invite à venir ici, à mes côtés, ou bien à prendre cette place centrale. Bien sûr, elle est là pour ça.
Bon, je commence.
Je vous en prie, commencez. Nous sommes impatients de vous entendre.
Bon, bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ces colloques de m'avoir invité. Et il est évident que c'est une date très importante.
Vous m'entendez?
Non?
Dans le fond, on n'entend pas. Mais je pense que vous avez une bonne voix.
Elle est un peu fatiguée. Bon, je vous disais que je remercie les organisateurs de ces colloques. C'est une date très importante. Et cet anniversaire était un peu différent au Chili. Les retentissements a été bien plus grand que dans d'autres occasions. Et je pense que nous en aurons la possibilité, l'opportunité d'en parler cette fois-ci. Bon, le titre de mon exposition, c'est « La gauche chilienne et les élections ». Je vais lire pour essayer d'être plus précis et pour m'en tenir au temps que m'a signalé.
Je suis la gardienne du temps, effectivement.
Au Chili, on débat depuis longtemps sur la pertinence et la possibilité de recourir aux élections pour concrétiser les espoirs populaires. On peut affirmer que cela a commencé à la fin du XIXe siècle avec l'apparition d'une gauche très démarquée des classes dirigeantes libérales. L'opposition entre les deux âmes de la gauche et du mouvement populaire, l'institutionnaliste ou gradualiste et la rupturiste, s'est surtout développée dans la gauche sociale et politique au XXe siècle. La question de la participation aux élections a pris un caractère déterminant à diverses occasions historiques. Mon intervention a pour but de présenter brièvement les débats, la praxis historique de la gauche quant à l'usage des élections et la conquête des espaces dans les systèmes représentatifs pour défendre les intérêts populaires. Pendant la République oligarchique du XIXe siècle, dès l'instauration de la dénommée République libérale 1861-1891, les pays avançaient vers un système politique plus inclusif, respectant davantage les droits fondamentaux. Les travailleurs les plus qualifiés s'organisèrent en mouvement défendant l'idée de régénération du peuple avec un caractère éclairé, démocratique, libéral, populaire. Le mouvement populaire qui émergea à cette époque représenta un moyen pour soutenir les revendications et obtenir la transformation des institutions politiques libérales élitistes en un système réellement démocratique, essentiellement par les biais des élections dans les corps représentatifs de l'État. Le mouvement populaire organisé essaya d'utiliser les espaces et les occasions offertes par cette libéralisation relative. À partir de 1882, des expériences plus indépendantes virent le jour dans les activités électorales. Au début, il y a eu les candidatures ouvrières en 1882. Et 1885. C'était l'expression du courant libéral populaire au sein de la grande famille libérale pour défendre les intérêts des travailleurs avec des stations de représentants au conseil municipal ou au parlement national. Ces candidatures connurent des destins variés. Aucun candidat n'obtient des sièges parlementaires, mais plusieurs furent élus municipaux. Le Parti démocratique, créé en 1887, fut le premier parti de souche nettement populaire. Il était composé d'artisans, d'ouvriers et de quelques jeunes intellectuels de classe moyenne. Il représenta un pas en avant dans la auto-représentation des secteurs populaires et dans la participation aux batailles électorales. Son programme visait la transformation progressive de l'État oligarchique dans un État démocratique. Cela se ferait grâce à une stratégie qui combinait le soutien à quelques revendications populaires et la participation aux élections, voire privilégier vers la conquête d'espaces institutionnels. Les premières tentatives électorales du Parti démocratique ne furent pas couronnées de succès. Cependant, pendant les années qui suivirent la guerre civile de 1891, le Parti démocratique récolta les premiers fruits de son activité électorale. Les résultats, certes modestes, étaient encourageants. Dès la fin du XIXe siècle, la question des élections divisa les mouvements populaires. Elle suscita des polémiques et des dissensions. Elle provoqua également le départ de quelques militants démocrates qui formèrent les premières et, brèves organisations socialistes chiliennes. Ils ne s'opposaient pas au recours aux urnes pour progresser, mais divergeaient sur l'efficacité des alliances politiques. De leur côté, le premier noyau anarchiste avait des positions encore plus tranchées sur la question, car il s'opposait fermement à tout type d'insertion dans la politique institutionnelle et il se rejetait catégoriquement une participation aux élections. Pendant ce temps, la question électorale avait des effets contradictoires sur les partis démocratiques. Sa représentation au Parlement et dans les conseils municipaux croissait lentement. Les députés du Parti démocratique présentaient les premiers projets de législation sociale. Cependant, la polémique sur la question des alliances avec des partis bourgeois aboutit en 1901 à une longue rupture qui donnera lieu, entre autres, à la création du Parti ouvrier socialiste en 1912. Cette rupture se concrétisa quand un groupe de militants, conduit par un typographe, Luis Emilio Recabarren, créa un nouveau parti dans la région du Salpêtre, le Parti ouvrier socialiste, au nord. C'était le noyau dur du futur Parti communiste chilien. À partir de ce moment, trois forces se disputeront la direction du mouvement populaire chilien, les anarchistes, les démocrates et les socialistes. Pour ces deux derniers courants, les élections représentaient un champ d'action valide, mais leurs politiques divergèrent sur des questions de fond. Pour les partis ouvriers socialistes chiliens, la lutte politique impliquait la participation aux élections afin d'élire des représentants dans les corps de l'État, mais tout comme son successeur, le Parti communiste, sans espérer des changements révolutionnaires par ces biais. En bref, les victoires électorales communistes pouvaient faire avancer la révolution sociale, mais celle ne suffisait pas pour provoquer cette révolution. Le paysage de la gauche changea dès le début des années 30. Le Parti démocratique connut une décadence nette. Les opposants à l'influence croissante de l'international communiste au sein du Parti communiste avaient rompu avec ces derniers et, fait plus déterminant, plusieurs groupes fondèrent le Parti socialiste en 1933. Ces partis reprirent des concepts tels que la lutte des classes, la socialisation des moyens de production, les gouvernements des travailleurs et l'internationalisme. Ils défendaient les volets latino-américains et rejetaient les sociétés internationales. Ces principes et les désirs, plutôt que les sociétés internationales, les internationales elles-mêmes. Ces principes et les désirs d'aboutir à une représentation politique des travailleurs mirent le Parti socialiste en confrontation directe avec le Parti communiste qui avait les mêmes aspirations. Les socialistes et les communistes défendirent jusqu'en 1935 une logique de rupture. Cela ne les a pas empêchés de participer à différentes élections. Pendant ces premières années, le Parti socialiste eut une attitude ambivalente entre la voie électorale et la voie violente, car la démocratie bourgeoise n'était qu'un simple moyen pour eux pour aboutir au socialisme. Mais jamais le Parti socialiste ne se prépare à la lutte armée et se consacra au travail électoral. C'est ainsi qu'en 1934, le Parti socialiste constitua le bloc de gauche avec le Parti radical socialiste, le Parti démocratique et la gauche communiste, scission trotskiste du Parti communiste. Cette décision permettait de préserver les principes tout en ayant une politique pragmatique destinée à conquérir des espaces institutionnels et de là de diffuser ses idées. Le Parti socialiste justifia cette politique de la même façon que le Parti communiste et l'intérieur Parti ouvrier socialiste. Vers le milieu des années 30, les deux principaux partis politiques de la gauche adoptèrent une politique du Front populaire marquant un grand virage. Ils passaient d'une stratégie radicale de rupture à une stratégie graduelle, parlementaire et institutionnelle. L'expérience des gouvernements du Front populaire sous l'hégémonie du Parti radical étouffa les espoirs de la gauche et des grands secteurs du peuple. Entre 1938 et 1947, ces gouvernements accomplirent un ensemble de réformes démocratiques en faveur des travailleurs urbains et de la classe moyenne. Ils encouragèrent l'industrialisation du pays, mais en échange, la gauche devait respecter scrupuleusement les intérêts de la bourgeoisie et sacrifier les paysans. Ils retardèrent constamment la réforme agraire et les droits pour les paysans et les ouvriers agricoles de ces syndiqués. Comme si cela ne suffisait pas, la politique du Front populaire prit un tournant conservateur. Le dernier président radical, Gabriel González Videla, inquiet des progrès électoraux et de l'influence syndicale croissante de ses alliés communistes, réagit. Suivant la politique nord-américaine de la guerre froide, il rompit son alliance avec le Parti communiste, l'expulsa du gouvernement en 1947, le rendit illégal en 1948 avec une loi dénommée « Loi de défense permanente de la démocratie ». Cette loi, connue sous le nom de la « loi maudite », écarta les communistes du jeu politique institutionnel pendant 10 ans. Malgré la répression, tout spécialement pendant la phase la plus dure, 1948-1952, les relégations, les emprisonnements, les exils, les militants effacés des listes électorales, l'EPC n'a jamais rejeté le recours aux urnes comme moyen de lutte. Il utilisa des institutions de façade pour constituer son travail légalement et non tout en maintenant des structures clandestines. En 1952, le Parti communiste apporta son soutien à la première candidature de Salvador Allende, qui dirigea une des fractions du Parti socialiste. À partir de 1956, il entama une nouvelle alliance de gauche avec les socialistes, le FRAP, Front d'Action Populaire, qui proposa Salvador Allende pour la deuxième fois comme candidat présidentiel. Le représentant de la droite l'emporta par une courte victoire. Jusqu'à ce moment, la participation aux élections ne faisait pas l'objet d'un grand débat à gauche, contrairement à la question des alliances. Deux alternatives s'opposaient. Une alliance des ouvriers et des paysans avec les couches moyennes et la bourgeoisie nationale, dans un front de libération nationale, afin de faire une révolution démocratique, bourgeoise, anti-impérialiste, anti-féodale et anti-oligarchique, sous le contrôle de la classe ouvrière, d'après les partis communistes, ou un front des travailleurs, pour aboutir à un gouvernement des travailleurs qui ouvre la voie au socialisme, en accord avec les postulats socialistes. Mais toute une série d'événements nationaux et internationaux réorientèrent les débats au sein de la gauche. Aux défaites d'Allende en 1958 et 1964, il faut ajouter la répercussion de la révolution cubaine qui promouvait la voie armée comme modèle à suivre pour tout le continent. Il faut ajouter la rupture entre les partis communistes de Chine et de l'Union soviétique due à la ferme opposition chinoise au test du 20e congrès du Parti communiste soviétique en 1956 concernant la voie pacifique au socialisme et la coexistence pacifique avec l'impérialisme. Le schisme sino-soviétique eut des répercussions mondiales, y compris au Chili. Au Parti communiste chilien, comme dans d'autres partis communistes, il réveilla la critique envers une direction accusée d'être partisane et de pratiquer une politique réformiste de conciliation des classes. Cela apparaissait entre autres dans le crétinisme entre guillemets parlementaire et dans la stratégie de transition évolutive graduelle et institutionnelle considérée comme la voie la plus probable au socialisme. Cette perspective, défendue notamment par un groupe de communistes dissidents s'inspirant des positions maoïstes. Les directions des deux partis Parti socialiste et Parti communiste, furent critiqués par certains de leurs membres, le jeune le plus, notamment le jeune. Quelques jours après la défaite électorale d'Allende au présidentiel de 1964, des dissidents communistes et socialistes regroupés dans l'avant-garde révolutionnaire marxiste, VRM, le sigle en espagnol, que l'on retrouvera plus tard dans l'émir, la tendance guevariste, affirmait « L'échec des urnes n'est pas l'échec des ouvriers, des paysans, des étudiants révolutionnaires, ni des couches progressistes de la classe moyenne. La déroute électorale est l'échec de la dénommée voie pacifique de l'électoralisme conciliant, opportuniste, sectaire et honteux. » La gauche traditionnelle était critiquée par les différents courants de gauche qui émergeaient au Chili entre 1962 et 1966. Cela touchait des questions liées entre elles, les caractères de la révolution, les alliances, les formes de lutte, le type de parti, l'évaluation des élections et, de façon plus générale, la stratégie pour accéder au pouvoir. La gauche traditionnelle était inspirée par une logique complètement opposée, spécialement au Parti communiste, qui, après la défaite électorale de 1964, continuait à soutenir avec fermeté la théorie de la voie pacifique ou la voie non armée au socialisme. Pour les dirigeants communistes, je cite entre guillemets, les formes de lutte les plus extrêmes n'étaient pas forcément les plus révolutionnaires. Ils définissaient celles-ci comme étant celles qui surgissent des conditions économico-politiques concrètes et qui tendent à créer des grands mouvements de masse qui luttent pour des transformations au contenu révolutionnaire qui interprète l'étape du développement. Cette ligne, suivie par le Parti communiste, l'a menée à encourager les luttes de masse et à participer aux élections afin de développer, de diffuser ses objectifs et de renforcer le mouvement national anti-impérialiste. L'impact de la révolution cubaine, le schisme sino-soviétique et d'autres événements internationaux comme la dissidence yougoslave à la fin des années 40, l'invasion soviétique de l'Hongrie en 1956, eurent également un impact sur le Parti socialiste. Des courants émergèrent remettant en cause la tactique traditionnelle de la gauche et plus spécialement les voies d'accès au pouvoir. En 1962, une polémique éclata entre les secrétaires généraux du Parti socialiste et du Parti communiste portant sur le chemin de la révolution et les rôles des élections, entre autres. Malgré ces différences et un côté théorique plus radical chez les socialistes, les deux partis restaient réunis dans les FRAP, le Front d'Action Populaire, dans une alliance plus élargie, l'Unité Populaire, dans l'espoir d'arriver par les urnes au gouvernement afin de commencer les transformations révolutionnaires. La stratégie suivie par les deux grands groupes à gauche combinait une participation régulière aux élections à un encouragement aux luttes de revendication des secteurs populaires par le biais des grèves, d'occupation des terres, des manifestations, des grèves nationales ou d'autres actions, des préférences légales. L'aggravation de la crise économique et sociale, les échecs du second gouvernement populiste de Carlos Ibáñez aux années 50, du gouvernement de la droite classique de Jorge Alessandri entre 1958 et 1964, de la tentative réformiste démocrate chrétienne d'Eduardo Frei Montalva, 64-70, ajoutée à la nouvelle politique nord-américaine pour l'Amérique latine, avec l'Alliance pour les progrès, aiguisèrent les conflits sociaux et firent remonter les partis de gauche aux élections. Entre 1960 et 1969, le Parti communiste passa de 9,5% à 16,6%. Le Parti socialiste du 10,17% à 12,76%. Il faut ajouter les 2,2% obtenus pour l'Union populaire socialiste venant du Parti socialiste. Quoi qu'il en soit, ces chiffres ne permettaient pas de croire à une victoire électorale au présidentiel de 1970, ce qui provoqua des réactions diverses dans les principaux partis. Les socialistes se montrèrent plus méfiants vis-à-vis de la voie électorale après l'échec de Salvador Allende en 1964. Lors de son 22e congrès en novembre 1967 à Chillán, le Parti socialiste avança l'idée de prendre le pouvoir par la force pour instaurer, entre guillemets, un État révolutionnaire qui entamerait la construction du socialisme. La lutte armée fut définie comme l'axe de sa stratégie. La violence révolutionnaire devenait inévitable et légitime en raison de l'état de classes répressives et armées. Selon les déclarations du Congrès socialiste, évidemment. Malgré ces déclarations incendiaires, le Parti socialiste fit de son mieux dans les activités légales et pacifiques. À ce sujet, il ne s'agissait pas de rejeter l'activité électorale, mais de la subordonner à la stratégie révolutionnaire. Les socialistes s'engagèrent à fond dans les élections parlementaires de 1969 et dans la campagne présidentielle de 1970. En contradiction avec ses propres déclarations, le Parti socialiste commença des compensations électorales, se montrant intéressé avant tout par les postes parlementaires et n'appliquant pas la ligne politique décidée à Chillán, selon ce qu'a déclaré l'un de leurs propres historiens, Julio César Jovet. Ces faits ont été reconnus par cet historien de façon qu'on ne peut pas nier cette politique. D'autre part, le Parti socialiste finit par se soumettre à la politique de l'unité populaire démocratique préconisée par le Parti communiste, ressemblant à un front de libération nationale plus simple que les fronts des travailleurs impulsés par les socialistes depuis les années 50. Salvador Allende se présenta pour la quatrième fois aux élections présidentielles. Cette fois-ci, il représenta la coalition de l'unité populaire composée par des socialistes, des communistes, des radicaux, des membres du MAPU, dissidents de la démocratie chrétienne, des sociodémocrates et des indépendants. Cela provoqua d'autres débats à gauche sur la question électorale. Le Parti communiste, les secteurs socialistes représentés par Allende et d'autres membres de l'unité populaire adhérèrent strictement à la stratégie choisie. En revanche, la majorité du Parti socialiste et surtout différentes organisations à gauche de l'unité populaire, comme les jeunes MAPU, manifestèrent leur plus grande méfiance vis-à-vis de la voie électorale. Dans un geste face à l'unité populaire, le MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire, s'est limité à interrompre en 1969 ses actions de propagande armée et en mai 70, le MIR déclara qu'il ne participerait pas aux campagnes électorales, les élections n'étant pas la voie de la conquête du pouvoir. Plus tard, en juillet 70, le secrétaire national du MIR laissa libre ses militants de voter ou non. La victoire de Salvador Allende le 4 septembre 1970 ne mit pas un terme au débat dans la gauche chilienne. D'un côté, le Parti communiste, une partie du Parti socialiste et d'autres forces de l'unité populaire virent dans cette victoire la confirmation pratique d'une transition pacifique au socialisme. D'un autre côté, une grande partie du Parti socialiste, les MIR, d'autres éléments de l'unité populaire, ainsi que quelques petites organisations extérieures à l'Alliance, estimaient que les victoires électorales ne signifiaient pas que l'affrontement armé n'était plus nécessaire. C'était tout au plus un scénario politique différent. Les MIR, par exemple, réaffirma immédiatement ses postulats antérieurs et reconnut simplement s'être trompé sur un point. Il avait surestimé la force politique et tactique de la droite face au succès de la gauche et il avait sous-évalué la capacité de manœuvre tactique de la gauche en cas de victoire électorale. De toute façon, les dirigeants du MIR soutenaient que la question du pouvoir restait ouverte car l'appareil d'État capitaliste, les forces armées plus spécialement, restaient inchangées. L'unité populaire avait peu de possibilités de modifier le cadre légal. L'émir adopta donc une position de soutien critique au gouvernement d'Allende encourageant la lutte des masses pour déborder les cadres institutionnels et pour préparer l'inévitable affrontement armé. Le débat sur la question électorale pendant l'unité populaire s'est mêlé à celui sur la stratégie pour arriver au pouvoir et entamer la construction du socialisme. Toutes les forces de gauche reconnaissaient que l'arrivée au gouvernement ne signifiait pas la conquête du pouvoir, car le Parlement, la justice, les forces armées et presque toutes les institutions restaient sous le contrôle des classes dominantes. Cependant, elles différaient sur les stratégies de prise du pouvoir. Le Parti communiste, Allende et des secteurs proches défendaient la thèse qui visait à occuper l'État grâce à une combination des luttes sociales et politiques où la question des élections et un pacte avec le centre, c'est-à-dire les partis démocrates chrétiens, était essentiel. Le pouvoir obtenu dans l'État serait utilisé pour réaliser des tâches démocratiques, nationales et socialistes. C'était le processus révolutionnaire par la voie politique, selon l'expression employée par Joan Garcés, conseiller du président Allende. Un slogan résumait cette position: consolider pour avancer. En revanche, la majorité du Parti socialiste, le MIR, une bonne partie du MAPU et d'autres secteurs à l'intérieur et à l'extérieur de l'unité populaire proposaient la création d'un pôle révolutionnaire et estimaient l'affrontement armé comme inévitable. D'où le besoin de les préparer en mobilisant les masses pour déborder les institutions de l'État bourgeois. On affirmait les caractères immédiatement socialistes du processus en cours. Le slogan disait « avancer sans transiger et créer le pouvoir populaire ». Le pouvoir populaire était conçu comme une alternative à l'État bourgeois. Les polémiques ont souvent pris un caractère théologique, avec chaque tendance citant des extraits des classiques, Marx, Engels et Lénine pour l'essentiel. Personne l'emporta et on assista à ce que Thomas Mulian qualifia de match nul catastrophique dans le contexte d'un coup d'État qui annihila l'expérience de la voie chilienne vers le socialisme en prétendant éviter le terrible coup d'une guerre civile. La longue dictature pinochetiste mise en terme aux avancées électorales accomplies avec un minimum de garanties démocratiques. Cependant, les plébiscites organisés par le régime furent l'occasion des débats sur la position à adopter à gauche et dans l'ensemble de l'opposition. En 1980, la dictature annonça un référendum pour le mois suivant. Il s'agissait d'approuver un projet de constitution élaboré en secret pendant 7 ans. L'opposition se trouva face à une alternative. Fallait-il participer légitimement ainsi à cette consultation organisée dans un climat de terrorisme d'État, sans liste électorale, et ça avait été brûlé par les militaires, dans des conditions absolument inégales de choix? On pouvait accepter ou refuser le projet de constitution de la dictature? Dans ces circonstances, le dilemme ne se posait pas. La gauche choisit résolument l'abstention. La situation était différente en 1988. Après un cycle de manifestations massives, le régime connaissait une phase de déclin et de repli ordonné négocié avec les membres de l'opposition modérée, la démocratie chrétienne, un secteur du Parti socialiste et d'autres forces. Cette transaction bénéficiait du soutien actif de l'Église catholique et du gouvernement américain. Le plébiscite était beaucoup plus équilibré que les précédents. Le oui signifiait le maintien du régime Pinochet pendant 8 années supplémentaires. Le non supposait des élections présidentielles au bout de 14 mois et un changement de gouvernement 3 mois plus tard. Cependant, une grande partie de la gauche, le Parti communiste, un certain du Parti socialiste, les MIR et d'autres organisations se méfiaient de cette voie négociée et doutaient que le régime acceptât réellement une défaite éventuelle aux urnes. Finalement, ces secteurs rejoignirent en reculant les partisans du non. Cela s'expliquait par l'échec de la solution des ruptures pour renverser la dictature promue essentiellement par les partis communistes qui, dès le début de la décennie, opérant un changement tactique, avaient développé la politique des rébellions populaires de masse, se basant sur la logique de toutes les formes de lutte. Ces polémiques, alternées avec des stratégies différentes, divisant la gauche de la fin des années 70, sur des questions très variées comme l'évolution du socialisme réel, le marxisme et le léninisme, le genre des partis, la démocratie, la façon d'en finir avec la dictature, des débats qui aboutirent à la soi-disant rénovation socialiste, à une réorganisation générale des forces de gauche. Ce sont des thèmes que je ne pourrais pas aborder, évidemment, aujourd'hui. Il m'a resté combien de temps ?
On a terminé le temps.
Combien ?
On a terminé.
Bon, on a terminé le temps. Je ne pourrais pas... Oui, je dois conclure. Et j'avais prévu parler de la situation actuelle,
de
Sanger actuel. En conclusion, nous pouvons dire que la question des élections reste un sujet de controverse, distinguant les deux âmes qui caractérisent et provoquèrent des tensions à gauche et dans les mouvements populaires chiliens. Une tendance prônait l'intégration afin de profiter des espaces pour atteindre certains objectifs économiques, politiques et sociaux. Cela se traduisait généralement par des stratégies graduées, réformistes, pacifiques, occupant progressivement l'État. L'autre tendance de rupture refusait l'intégration systématique, les pactes avec les forces bourgeoises et à l'occasion proclamer, voire essayer d'appliquer des politiques de type insurrectionnel. Le refus ou non des élections n'a pas toujours permis de se prononcer clairement pour une participation ou une position de rupture, mais on constate que ceux qui soutenaient l'activité électorale favorisaient fréquemment, pas toujours, les réformes graduelles, l'occupation progressive de l'État et les alliances larges, incluant éventuellement la bourgeoisie nationale. Par ailleurs, ceux qui percevaient les élections comme un piège du système ont penché davantage vers des politiques de rupture révolutionnaire et dans la majorité des cas ont choisi des alliances exclusivement populaires. L'échec de la voie pacifique au socialisme, incarné par le gouvernement de l'unité populaire au début des années 70, est jugé en fonction des convictions de chacune sur ces questions, et plus spécialement sur la question suivante. Que peuvent attendre les mouvements populaires dans un système politique d'un pays dépendant, situé dans l'arrière-cour des États-Unis, avec une classe dominante telle que la chilienne, qui a montré à maintes reprises jusqu'où elle peut aller pour défendre ses intérêts vitaux. Voilà. Merci.